l'accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. Ils toquent à la porte de l'Union européenne depuis plusieurs années déjà sans grande illusion. S'ils ont regardé les résultats des élections européennes avec un Parlement fragmenté où les partis eurosceptiques et nationalistes progressent encore, ils n'ont fait aucun commentaire. C'est le cas notamment en Turquie, 20 ans déjà que le pays a officiellement été reconnu candidat à l'UE. Aujourd'hui, cette candidature n'a jamais semblé aussi éloignée. Perdu dans le naufrage de la démocratie turque et la crise d'identité de l'Union. Et pourtant, à Bruxelles, comme à Ankara, personne ne semble prêt à déclarer forfait le premier Anandlauer.
Les élections européennes, l'Union européenne, l'adhésion à l'Union. En Turquie, il y a quelques années, ces sujets étaient récurrents dans le débat public, dans la bouche des hommes politiques, sur les plateaux de télévision. Modèle ou repoussoir, les Turcs parlaient d'Europe. Mais en 2019, alors que leur pays est officiellement candidat depuis presque 20 ans, les Turcs ont la tête et le cœur ailleurs. L'UE est un non-sujet, à tel point que certains jeunes comme Umut, qui a tout juste l'âge de cette candidature, s'étonnent qu'on leur demande encore s'ils sont pour ou contre l'adhésion.
Franchement, est-ce que ça dépend de nous? Je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas que notre opinion ait la moindre importance ni pour les dirigeants turcs, ni pour les Européens.
L'adhésion, pour ou contre, en un sens, ce jeune Turc a raison de trouver la question incongrue. Officiellement, oui, la Turquie est toujours candidate. Mais ni les dirigeants turcs, ni les dirigeants européens ne pensent plus sérieusement qu'Ankara sera un jour membre du club, du moins pas dans un avenir proche. Cela ne chagrine pas Hakan, un étudiant de 23 ans, pour qui la place de la Turquie est ailleurs.
Je ne soutiens pas l'adhésion, je soutiens le processus d'adhésion car je pense que c'est un instrument de modernisation. Mais politiquement, je ne veux pas que la Turquie entre dans l'UE car il est évident que nos positions sont incompatibles sur plusieurs sujets importants, notamment la souveraineté. Et puis je tiens à ce que la Turquie reste un pays neutre entre Occident et Moyen-Orient.
À l'inverse, Bedri, un ingénieur électrique au chômage, soutient l'adhésion. Il fait partie de ces Turcs pour lesquels l'UE était une promesse, un horizon auquel s'accrocher.
Qui pourrait dire non à une telle opportunité de développement, surtout dans le contexte économique actuel? J'ai un frère plus jeune et pour lui, comme pour moi, bien sûr, je voterai oui en cas de référendum sur l'adhésion.
C'est Recep Tayyip Erdogan, l'actuel président, qui dirigeait déjà la Turquie lorsqu'elle a entamé ses négociations d'adhésion en 2005, qui a soufflé l'idée de ce référendum et qui la remet sur la table chaque fois que l'envie lui prend de dénigrer cette perspective qui se refuse à lui. Le chef de l'État fustige régulièrement l'Union européenne, mais paradoxalement, il refuse de couper les ponts, d'être celui qui, le premier, mettra fin aux négociations. Tout simplement parce qu'il n'a pas le choix, estime Uluç Özülker, ancien ambassadeur de Turquie auprès de l'Union européenne.
Le gouvernement actuel, qui est plus islamiste que jamais, même ce gouvernement dit que notre objectif final, c'est d'entrer dans l'Union européenne. Pourquoi? Parce que quelle est l'alternative? Quelle est la conséquence si jamais la Turquie rompait ses relations avec l'Ouest? Un rapprochement encore plus profond avec la Russie? Est-ce que c'est préférable?
Côté européen, le constat est à peu près le même. Certains États rejettent ouvertement l'adhésion turque. Le Parlement européen a officiellement demandé en mars la suspension des négociations à cause des atteintes répétées d'Ankara aux droits de l'homme. Mais l'UE ne ferme pas sa porte. Uluç Özülker estime que les Européens, pour des raisons économiques et politiques, ne peuvent pas se permettre de s'aliéner la Turquie. Il résume la situation en citant une analogie.
Par exemple, j'avais entendu à Bruxelles, quand j'étais ambassadeur, que la Turquie était comme un os. On n'arrive pas à le faire avaler et on n'arrive pas à le faire sortir non plus. Enfin, c'est à la gorge toujours et cela nous suffoque un peu.
Dans les rues d'Istanbul, Aslı, une pharmacienne de 26 ans, et Gülten, une femme au foyer de 52 ans, proposent la même explication. Selon elle, si l'Union européenne ne rejette pas la Turquie, c'est qu'elle n'a de toute façon l'intention d'accepter personne d'autre, mais refuse de l'avouer.
Non seulement je ne pense pas que l'Union européenne accepte d'autres membres à l'avenir, mais j'ai l'impression que cette union est en train de se déliter parce que les raisons qui avaient conduit à sa création n'existent plus aujourd'hui.
Je ne pense pas qu'une telle union existe. Le sujet, ce n'est pas l'entrée de la Turquie ou pas. Le sujet, selon moi, c'est que l'Union européenne n'existe plus que de nom.
Et puis, il y a les Turcs comme Onur, 27 ans, qui, tout en disant leur attachement aux valeurs européennes, estime que l'Europe serait mal inspirée d'accepter son pays.
Je ne voudrais pas que la Turquie, qui n'est clairement pas prête et ne le sera pas avant longtemps, rejoigne l'Union européenne. En termes économiques, en termes politiques, nous ferions plus de mal que de bien à l'Europe. Mais un jour, peut-être.
En 20 ans de candidature, l'espoir a donc laissé la place à la résignation ou au pessimisme. Selon un sondage récent de la Fondation IKV, 7 Turcs sur 10 ne pensent pas que leur pays sera officiellement européen dans un avenir proche.
Mais il y a encore des pays qui rêvent d'Europe. Dans le Caucase, la Géorgie va même jusqu'à fonder toute sa politique sur l'adhésion à celle-ci, quand bien même ses chances d'en faire partie sont quasi nulles. Bonjour Régis Janté.
Bonjour Catherine.
Alors vous êtes notre correspondant à Tbilissi, au cœur du Caucase. Comment expliquer ce désir d'Europe de la part de quelques 4 millions de Géorgiens ?
Je dirais qu'il y a deux raisons, Catherine. L'une volontaire et positive de faire partie de la grande famille européenne et l'autre qui tient à la répulsion exercée par l'ancienne puissance coloniale qu'est la Russie, ce qui explique que les Géorgiens, notamment depuis leur indépendance en 1991, cherchent une protection auprès des Européens, diplomatique du moins. Il s'agit de ne pas se retrouver seul face à une Russie qui occupe, par régime séparatiste, interposés 20% de leur territoire, les régions de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, échappant au contrôle de Tbilissi parce que, au lendemain de la chute de l'URSS, la Géorgie a affiché son souhait de s'affranchir de la tutelle russe. Ce souhait d'indépendance, et là je reviens sur le désir d'Europe, est ancien, enraciné. Les Géorgiens se représentent comme chrétiens, orthodoxes, ce qui pour eux est synonyme de leur identité européenne.
Et pourtant, il n'est pas question d'adhésion. Pourquoi ?
Bon, d'abord parce que l'Europe est trop en crise pour penser élargissement, du moins élargissement avec un pays qui a des relations extrêmement difficiles avec la Russie. Les pays européens ne veulent pas risquer d'irriter le Kremlin sur fond d'absence d'une vraie politique russe, en fait. C'est devenu encore plus évident après la guerre russo-géorgienne de l'été 2008, par laquelle le Kremlin a voulu notamment dire aux Occidentaux qu'elle ne laisserait pas l'OTAN, le parapluie sécuritaire des Européens, s'installer à ses portes. Ce à quoi les Géorgiens aspirent, puisque la Russie, comme je le disais, occupe 20% de leur territoire.
Alors malgré tout, la Géorgie fait tout pour se rapprocher de l'Europe.
Oui, vraiment tout, au point d'avoir envoyé par exemple un contingent de 150 soldats en République centrafricaine en 2014, dans le cadre de la mission militaire européenne EUFOR RCA. 150 soldats sur 600, ce qui fait que les Géorgiens représentaient alors le plus gros contingent européen en RCA, la plupart des pays européens ayant rechigné à envoyer leurs troupes sur ce terrain dangereux.
Et où en est le pays de ses liens avec l'Union européenne ?
Le fait le plus important des relations UE-Géorgie est l'entrée en vigueur le 1er juillet 2016 d'un accord d'association et d'un accord de libre-échange complet et approfondi, connu sous l'acronyme anglais DCFTA, par lequel la Géorgie se trouve intégrée à l'Europe. Et puis, voilà 2 ans, les Géorgiens ont obtenu la suppression des visas pour des séjours courts dans l'espace Schengen.
Mais à quoi bon tout cela s'il n'y a pas de perspective d'adhésion ?
Parce qu'à Tbilissi, on pense que plus on sera européen dans la gouvernance, dans la vie politique, dans les mœurs, plus on se coupera de l'influence russe, au niveau sociétal notamment donc.
Régis Janté, notre correspondant dans le Caucase. À bientôt Régis.
À bientôt Catherine. Estonie, Lithuanie, Belarus, Pologne, Ukraine, Moldova, Roumanie, eat some Bulgari. Greece's pieces, Macedonia, Albany and Kosovo, Montenegro, Serbia and Bosnie-Herzégovine.
Aux portes de l'Union, l'Ukraine a fait de l'intégration européenne une de ses priorités depuis la révolution de 2014. Empêtrée dans sa guerre avec la Russie sur le front Est, une crise économique persistante et une corruption endémique, le pays n'est pas prêt d'adhérer. Pourtant, le soutien à l'adhésion reste fort à 57% selon l'Institut de sondage Rating. À Kiev, Sébastien Gobert.
Ukraina tseyevropa, l'Ukraine c'est l'Europe. Le slogan est martelé en chœur depuis la révolution de la dignité, aussi appelée l'Euromaïdan. Lors de la récente élection présidentielle, aucun des principaux candidats ne contestait la nécessité de l'intégration européenne. Volodymyr Zelensky y a même consacré une partie de son discours d'investiture, le 20 mai.
Nous avons choisi de suivre un chemin vers l'Europe, c'est évident, mais construire un pays européen, ça commence avec chacun d'entre nous.
Depuis 2014, malgré la guerre, malgré la crise, le gouvernement a appliqué un accord d'association ambitieux avec l'Union européenne qui libéralise les échanges commerciaux et modernise l'économie. Les Ukrainiens bénéficient aussi depuis 2017 d'une libéralisation du régime de visa pour voyager à travers l'espace Schengen. On sent dans la population ce désir d'Europe pour une question de valeur et d'aspiration à un meilleur niveau de vie, mais aussi par opposition à l'héritage soviétique et à la Russie impérialiste de Vladimir Poutine. Pour autant, ici, pas d'illusion sur une adhésion prochaine, comme le souligne Volodymyr Zelensky.
L'Europe n'est pas là-bas, au loin. L'Europe, elle est ici, dans nos têtes. Quand nous la verrons ici, dans nos têtes, alors l'Europe sera déjà une réalité en Ukraine. C'est notre rêve à tous.
Les cinq dernières années ont bien montré aux Ukrainiens les possibilités de la solidarité européenne et ses limites, tant sur le plan diplomatique et militaire qu'économique et financier. Beaucoup ont compris qu'une bonne partie de l'aide occidentale a été gelée à cause de la corruption systémique qui grippe toujours les institutions d'État. Alors la première des conditions de l'intégration européenne, c'est un nettoyage et des réformes structurelles ici. Au cours des dernières années, le discours des pro-européens s'est adapté. L'Ukraine a certes besoin de l'Europe, mais certains ici tentent de faire comprendre que l'Europe a aussi besoin de l'Ukraine. Le député indépendant Sergueï Leschenko est l'un des plus pro-européens au Parlement. Il est sûr que l'Ukraine défend l'Europe contre la Russie.
L'Ukraine est un terrain d'entraînement pour la Russie. L'Europe peut voir ici les techniques que les Russes utilisent. Ce qui se passe chez nous, cela permet de comprendre ce que la Russie veut faire de l'Union européenne. Nous en sommes le laboratoire. L'Ukraine est un élément clé du système de sécurité en Europe.
À ce niveau, les Ukrainiens sont prompts à mettre les Européens en garde contre les ingérences de la Russie et ses partenariats avec des partis souverainistes ou d'extrême droite. Un danger éclairé encore récemment par un scandale politique en Autriche et par la montée des populismes lors des élections pour le Parlement européen.
Les valeurs européennes sont d'ores et déjà mises à mal sur le continent. Et dans l'arrière-cour, il y a une agression directe de l'armée russe. Il faut se soucier de ce qu'il se passe ici parce qu'une Ukraine qui réussit va dans l'intérêt de l'Europe.
L'Ukraine arrière-cour aujourd'hui est peut-être un jour partie de la maison commune. Personne ici n'ose parler de calendrier. Quoi qu'il en soit, l'intensification des relations est indéniable. Plus de 40 millions de passages de frontières ont été effectués depuis la libéralisation du régime de visa en 2017, et plus d'un million de travailleurs ukrainiens ont comblé un cruel besoin de main-d'œuvre en Pologne. L'Ukraine peut rester à l'écart de l'Union européenne pendant un temps, mais les Ukrainiens sont déjà en Europe. How do you feel about Europe? Does it surprise you on the continent you don't feel the same? À Bruxelles, l'heure est désormais aux tractations entre les différents groupes et elle s'annonce difficile tant le paysage politique a été recomposé au Parlement européen. Il faudra aussi désigner un président de la Commission pour succéder à Jean-Claude Juncker. Les nouveaux députés européens, eux, vont prendre leurs fonctions le 2 juillet prochain. La mobilisation inattendue des électeurs a donc apporté un certain nombre de surprises. Daniel Vigneron, bonjour.
Bonjour Catherine.
Alors, on va revenir d'abord sur les principaux enseignements de ce scrutin.
Tout d'abord, la mobilisation des électeurs. Les 51% de taux de participation pour l'ensemble de l'Union européenne, contre 42% en 2014, constituent le meilleur résultat depuis 25 ans. On a souligné le sursaut de 8 points en France, à plus de 50%, mais la participation a augmenté encore plus en Allemagne et en Autriche, de 13 et 14 points, et la hausse est d'environ 20 points en Espagne, Pologne ou Roumanie. Cette mobilisation est venue à l'évidence limiter la vague populiste que l'on annonçait.
Mais qui a profité de la mobilisation des électeurs ?
D'abord l'Alliance des démocrates et des libéraux qui, en partie avec l'apport nouveau de 21 députés macroniens, fait un bond de 40 élus en passant à 109. Et le groupe Vert qui passe de 52 à 69 députés grâce à ses bons scores en France et surtout en Allemagne, mais aussi au Royaume-Uni, en Belgique ou en Finlande.
Et quelles conséquences pour l'équilibre politique du Parlement ?
Les conservateurs du PPE et les sociaux-démocrates de S&D ont perdu leur majorité absolue, passant à eux-deux de 401 à 326 élus. Donc, comme l'espérait en France Emmanuel Macron, le groupe central des libéraux de la DLE est désormais en mesure de jouer un rôle pivot avec ses 109 élus. Cela pourrait aussi avoir des conséquences sur la désignation du président de la Commission en avantageant sa tête de liste, la Danoise Margrethe Vestager, au détriment des deux autres candidats officiels, le président du PPE, l'Allemand Manfred Weber, et le Néerlandais Frans Timmermans, leader du S&D, puisque ces deux groupes sont affaiblis d'une quarantaine de députés chacun. Éventuellement, cela pourrait jouer aussi en faveur d'un candidat de compromis, le français Michel Barnier, issu des rangs du PPE, mais qui ne se représentait pas en 2019. Outre qu'il s'est acquis une solide réputation d'acharné pragmatique en conduisant les négociations du Brexit, il a l'avantage appréciable d'être Macron-compatible.
Alors Daniel, vous pouvez détailler les surprises de ces élections ?
Sans m'étendre sur la situation française largement commentée, rappelons bien sûr l'excellente performance des Verts emmenée par Yannick Jadot, la descente aux enfers de la droite traditionnelle et le rééquilibrage inattendu, mais à un faible niveau, au sein de la gauche française. Cette performance des écologistes français est toutefois éclipsée par le bond en avant des Verts allemands qui, à 20%, doublent leur score de 2014 et deviennent la deuxième force politique d'Allemagne, derrière des chrétiens démocrates affaiblis et devant des sociaux-démocrates en sévère repli. L'avenir de la grande coalition outre-Rhin paraît menacé. Quant aux eurosceptiques de l'AFD, leur réussite à 11% des suffrages reste relative. En Belgique, notons que l'extrême droite du Vlaams Belang double son score à 11%, s'approchant désormais des nationalistes flamands de la NVA. En recul.
Des surprises aussi, je crois, au sud de l'Europe.
En Espagne, on ne prévoyait pas une victoire aussi nette des socialistes, 33% des voix, et l'émergence des populistes de Vox est restée à 6%, très discrète. En Italie, la victoire de la Ligue de Matteo Salvini est plus large, 34%, que ne l'anticipaient les derniers sondages. Surtout, c'est la déconfiture pour son partenaire gouvernemental du mouvement 5 étoiles qui, à 17%, divise son score par deux par rapport aux législatives de 2018. Quant au centre-gauche de Matteo Renzi, il n'espérait pas atteindre les 23% qu'il a atteint.
Daniel Vigneron de MyEurope.info. À la semaine prochaine, Daniel.
À bientôt, Catherine.
Et parmi les surprises de ce scrutin sur le vieux continent, on retiendra aux Pays-Bas la bonne tenue des sociaux-démocrates qu'on donnait battus pourtant. Mais les Verts, eux, ne font pas recette et s'il fallait une illustration pour expliquer ce mauvais score, il faudrait parler du glyphosate, ce pesticide que l'Europe n'a pas interdit malgré les graves soupçons qui pèsent sur cette substance, probablement cancérigène selon les études de l'OMS. Résultat, on utilise à profusion le Roundup de Monsanto en Hollande, Antoine Moutou.
Il y a 2 ans, aux côtés d'autres États, les Pays-Bas demandaient à l'Union européenne une prolongation de l'autorisation du glyphosate. Et maintenant qu'ils l'ont obtenu, les autorités néerlandaises ne se gênent pas pour s'en servir abondamment. Même si son usage est en partie tabou ici en raison de ses effets sur la santé, le fameux Roundup sert notamment de plus en plus dans la lutte contre la renouée japonaise, une plante hautement invasive et très résistante qui donne beaucoup de fil à retordre aux Néerlandais car elle détruit la flore locale et abîme parfois bâtiments et infrastructures. Rien que dans la ville d'Almere, à 30 km d'Amsterdam, la renouée japonaise serait responsable de plus d'un demi-milliard d'euros de dégâts. La commune de Zaanstad, en Hollande septentrionale, se targuait ces dernières années de se passer de produits chimiques dans le traitement des espaces verts et l'entretien de ses rues. Mais ça, c'est terminé, puisque désormais elle aussi est passée au Roundup. Et puis, autre scandale, même Nature Monumente, l'organisme national de protection des espaces naturels, s'y est mis, comme le relèvent plusieurs médias néerlandais. Et ça, alors que Nature Monumente appelait depuis longtemps les agriculteurs à se passer de glyphosate. Pire encore, une étude de chercheurs de l'université de Leiden, publiée ce mois-ci, démontre que le thiaclopride, utilisé notamment pour lutter contre les puces d'eau, est 250 fois plus toxique que ce qui était établi jusque maintenant. Et surtout, il s'avère être une grave menace pour abeilles et papillons. Seulement, voilà, son utilisation aux Pays-Bas devrait être encore tolérée pendant au moins 10 ans, car l'étude a été publiée 2 jours après la clôture de la réévaluation décennale du produit.
Merci de nous avoir suivis à la réalisation et la mise en onde, Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver sur RFI.fr et sur notre page Facebook.